Ça va ?
Oui !
D'accord. Bah écoutez, moi je suis content d'être avec vous aujourd'hui. On va ensemble passer quelques heures. L'objectif de cet après-midi de formation, eh bien, ça va être de vous amener un maximum d'informations, de vous aider peut-être à aller un petit peu plus en avant dans cette affaire. Au niveau de ce travail, c'est-à-dire que le plus important, moi je vais vous apporter une expérience, je vais vous apporter, certaines bases que j'ai mises en place pour développer ce projet. Maintenant, bon, comme je l'ai dit, tout est vérifiable, ça c'est un premier point. Puis ensuite, en fonction de ce que vous ressentirez, dites-vous bien une chose aussi, c'est que moi ce que je vais faire aujourd'hui, je ne vais pas vraiment vous dire ce que vous voulez entendre ou ce que vous avez envie d'entendre. Je vais certainement vous dire, ce que vous avez besoin d'entendre. D'accord ? Donc ça va peut-être parfois vous choquer. Alors si ça vous choque, vous mettez ça dans votre poche, mettez votre mouchoir dessus, ne sautez pas dessus après, ça ne servira à rien de toute façon. D'accord ? Moi, mon objectif, c'est de vous aider. Alors des fois, c'est vrai que quand on aide comme ça, des fois, il faut savoir dire des choses qui sont parfois plus ou moins agréables à entendre. Un point important par rapport à cet après-midi, ce que je voudrais savoir, c'est quelles sont les personnes ici qui ont un emploi ? D'accord ? Quelles sont les personnes ici qui ont un métier ? Vous connaissez la différence entre l'emploi et le métier, hein ? D'accord. Et quelles sont les personnes qui sont indépendantes ? Il y en a qui font tout, j'ai l'impression. Là. Ils ont l'emploi, le métier, ils sont indépendants. C'est formidable. Et qui a démarré ce projet pour l'argent ? Qui n'a pas démarré ce projet pour l'argent ? D'accord, donc vous me donnez votre adresse, m'intéresse. Je pourrais toujours me mettre sous la fenêtre, c'est jamais. Ou je vous donnerai un RIB pour le versement des commissions. Ah, ok. Non, pourquoi est-ce que je fais ça ? C'est simplement parce que ça me permet, moi, de me situer par rapport à vous, notamment par rapport au fait que ce qu'on va, valider aujourd'hui, c'est que toutes les personnes qui viennent, nous rencontrer, viennent intégrer un nouveau métier. Et ça, moi, je voudrais l'exprimer haut et fort, parce que la plupart du temps, vous avez bon nombre de personnes qui, quand elles découvrent ce projet, pensent savoir. Ouais, moi, je m'aperçois, j'ai plein de personnes comme ça qui arrivent et disent « Oui, oh, c'est bon, je connais, j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà fait de la vente, j'ai déjà été commercial. » Ça, c'est parfois les plus dangereux, je le sais, j'en fais partie. Hein. J'en ai fait partie, j'étais commercial pendant 24 ans, donc je sais de quoi je parle. Et si vous voulez, ou alors c'est des personnes, moi je vais même vous dire que moi dans mon réseau, j'ai des patrons, des chefs d'entreprise. Bah, je crois que c'est encore plus dangereux. Pour la simple et unique raison, c'est que ça peut être des personnes vraiment très intéressantes avec lesquelles on peut travailler à partir du moment où ils ont compris qu'il fallait partir d'une page blanche. D'accord ? C'est pas un métier qu'on va apprendre si on refuse de partir à la base. Puisque de toute façon, dans ce métier, tout le monde démarre au même niveau. D'accord ? C'est au moins une belle justice pour tout le monde. C'est-à-dire que quand vous démarrez ce métier, vous démarrez tous à zéro. D'accord ? Donc vous avez certaines personnes qui pensent qu'elles ne vont pas démarrer à zéro. Il y en avait un l'autre jour, il m'a dit « Mais moi, est-ce que je peux démarrer à ce niveau-là » Je lui ai dit « Oui, mais je ne vois pas comment on pourrait le faire, mais je dis, pourquoi pas ? Si tu vas vite, ça peut aller, si dans 3-4 mois, tu as envie d'être là, il n'y a pas de souci, mais tu ne peux pas acheter ton billet. » Donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, d'accord, dès le départ, il va falloir comprendre exactement ce que vous voulez faire à l'intérieur de ce projet. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que des fois, vous savez, on fait parfois beaucoup d'efforts pour des résultats qui ne nous intéressent pas. Vous avez remarqué ça ? Non ? C'est comme les personnes, des fois, qui viennent me voir et qui me disent « Ah, parce qu'en plus, faut payer pour entrer dans cette affaire. » Hein, ça me fait toujours rire, moi. En plus, la plupart du temps, les personnes qui me disent « Faut payer pour entrer dans cette affaire », elles font 50 km le matin pour aller au travail, 50 km le soir pour en revenir. D'accord ? Donc ce qui vous fait à peu près 500 km par mois, 500 km par semaine, 2000 par mois, et si vous facturez à 35 centimes le kilomètre, c'est-à-dire que tous les mois, elles vont investir 200 euros pour aller travailler pour un patron, mais pour elles, c'est pas la même chose. Pourtant, ces 200 euros, elles seront plus sur la paye à la fin du mois, puisque de toute façon, elles seront imputées au niveau de leur budget. D'accord ? Donc, faut bien comprendre une chose, c'est que là, on n'est pas en train de fonctionner comme ça. L'objectif, c'est vrai que quand vous démarrez un projet de ce type, eh bien, c'est de bien comprendre ce que vous venez de faire. Et quand vous le démarrez, vous allez vous rendre compte que vous démarrez un métier qui n'est pas... donc, quand vous démarrez ce métier, quand vous arrivez, quand on vous présente ce projet, très souvent, vous savez que vous remarquez qu'il y a bon nombre de personnes qui arrivent avec leur valise de préjugés. Vous remarquez ça? Quand ils arrivent, ils font « Oui, je connais, c'est comme. » D'accord? Alors, le premier métier sur lequel les gens se polarisent la plupart du temps, c'est le métier de la vente directe. C'est-à-dire que dès qu'ils rencontrent ce projet, ils disent « Oui, je connais, j'ai une cousine qui a fait ça, elle vend des boîtes en plastique, bon, c'est pareil, de toute façon, c'est la même chose. » En réalité, notre métier, ce n'est pas un métier de vente directe. Ça n'a strictement rien à voir. Vente directe, pour vous donner un ordre d'idée, 95% de présence féminine. Vous êtes donc sur une moyenne de retour financier entre 200 et 400 euros mensuels. La plupart du temps, quand on vous invite dans ce style de projet, on vous explique est-ce que ça t'intéresserait d'arrondir tes fins de mois. J'adore ça, le mot arrondir, fin de mois. Et puis, l'autre point important aussi, c'est de comprendre que tout ce que vous gagnerez sera exclusivement pour un retour par rapport à vos ventes. Point. Vous vous cassez les deux jambes au ski, vous êtes trois mois dans le plat, personne n'ira faire vos ventes à votre place. Et il n'y aura pas de retour financier. Donc c'est important de comprendre que notre métier n'est pas celui de la vente directe. Ensuite, vous avez un autre type de vente, qui est la vente multiniveau. J'imagine que vous avez déjà entendu parler. Il faut savoir que la vente multiniveau, ce sont des systèmes de vente qui sont très liés à l'autoconsommation de leurs distributeurs. Et dans certains systèmes de vente multiniveau, vous avez même des distributeurs qui perçoivent on appelle ça des surprimes sur l'intégration d'un nouveau dans leur affaire. Donc il faut savoir que quand vous êtes dans ces systèmes-là, vous êtes sur des systèmes dits borderline, vous n'êtes pas loin de la porte, d'accord, et de l'exclusion, puisqu'en France c'est interdit. Vous avez l'article 122.6 du Code de la consommation qui vous explique en France, bien sûr, que tous les systèmes pyramidaux sont exclus, bien sûr, de la profession que nous, on a voulu mettre en place. Il faut bien comprendre ça. Alors après, faut savoir aussi que dans ce système-là, moi, pour tout vous dire, ça fait à peu près 21 ans, 22 ans bientôt que je satellise dans ce style de métier. Et des miroirs aux alouettes, j'en ai vu, mais alors je peux vous dire, des paquets plus des petits tas. Moi, j'ai été invité bien souvent par des personnes, si vous voulez, qui m'ont expliqué que si j'allais bosser avec eux, ça irait beaucoup plus vite que dans ce que je fais aujourd'hui, pour gagner des sous, bien sûr. D'accord ? Donc c'est toujours plus logique, c'est-à-dire que, vous savez, l'herbe est toujours plus verte, dans la prairie d'à côté. Et il vient de m'expliquer, je vous parle de ça, moi, quand j'ai démarré ce projet-là, donc en 2005, vous avez déjà des personnes qui venaient me chercher en disant « Pascal, t'as fait une erreur, t'aurais dû démarrer avec moi, j'ai quelque chose à te proposer, tu vas voir, ça va aller très vite. » Il faut juste savoir que moi, depuis 8 ans, j'ai pas bougé, que cette personne que je connais depuis 8 ans, elle a fait 5 compagnies, et qu'elle a toujours pas trouvé le moyen d'en vivre. Okay, donc il faut faire attention, je pense que, moi, je suis pas en train de vous dire que vous allez faire fortune dans un an, dans deux ans, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de construire quelque chose, d'accord ? Parce que vous rentrez dans un métier qui n'est pas un métier de sprinter, qui est un métier de marathonien. Il faut avoir un peu de résistance, on va dire. Ok ? Donc, prenez conscience de ça. Première des choses, notre métier n'est pas celui de la vente directe, notre métier n'est pas celui de la vente multiniveau. Notre métier, aujourd'hui, pour ce qui nous intéresse, c'est celui de la vente directe par réseau. Vente directe par réseau, très simple, hein. On a un axe ici, client, et puis ici, on a un autre axe qui est celui de développer un réseau. Donc l'objectif, c'est de développer son réseau de distribution. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que pour moi, ça et ça, c'est, je dirais, ce qui doit vous apporter une sorte d'équilibre au niveau de votre affaire en permanence. C'est-à-dire qu'il faut être d'un côté un bon conseiller, un bon distributeur, et puis de l'autre côté, avoir l'âme d'un réseauteur, et l'âme d'un réseauteur, c'est une âme de recruteur. Et si vous êtes dans cet axe-là, tout va bien se passer, sachant que lorsque vous allez démarrer, vous allez vous apercevoir le premier mois que c'est cet axe-là qui va vous amener une base de rémunération, peut-être à hauteur de 98% de vos efforts, et que cet axe-là, ça représentera peut-être que 2%. Et puis vous verrez que si vous faites bien ce qu'il y a à faire dans la création de votre affaire, eh bien, dans deux ans, ce sera l'inverse. Là, vous serez à 98% et là, vous serez à 2%. Alors moi, il y a des personnes, des fois, quand je les rencontre, elles me disent « Mais toi, tu continues à aller voir des clients ?» Je dis « Oui, pourquoi ?» Elles me disent « T'as plus besoin maintenant ?» Je dis « Si, parce que quand tu démarres quelqu'un dans ce métier, tu as besoin quand même de te remettre à niveau, la plupart du temps. C'est quand même bien de faire les choses de sorte à ne pas lui raconter « J'irai trop de bêtises. » Donc, il faut toujours être dans le mouvement. il faut toujours être dans ces deux axes-là en permanence. Je vais revenir sur un point qui me semble important aussi. Lorsque vous démarrez ce type de métier, et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean-Laurent Rodriguez, pour ceux qui le connaissent, il vous explique que vous avez un premier axe, donc c'est celui d'être un bon conseiller. J'emploie le mot conseiller parce qu'il nous concerne. Maintenant, vous pouvez mettre vendeur, vous pouvez mettre distributeur, vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'estime qu'on a plus un rôle de conseil. Et puis, après ça, il va falloir être un bon recruteur. Alors ça, c'est le mot, c'est ce mot-là. Il faut recruter. Il n'y a pas le choix. Si vous voulez créer un réseau, il va falloir vous connecter avec un certain nombre de personnes et recruter. Et après, vous allez avoir l'autre axe qui est le fait d'être un formateur. Après, vous avez l'autre qui est celui d'être un animateur. Et après, vous avez le dernier, et ça, c'est souvent le plus compliqué, c'est celui d'être un exemple. Voilà, donc je suis un conseiller, je suis un recruteur, je suis un formateur, je suis un animateur et je suis un exemple. Et tout ça, c'est des métiers qui s'apprennent. C'est-à-dire que quand vous allez démarrer ce projet, il va falloir accepter l'idée que tout ça, il faudra le faire. Alors, vous êtes peut-être aujourd'hui très bon conseiller, moins bon recruteur, formateur pas encore, animateur pas du tout. Le plus important toujours, c'est ça. Restez dans cette notion d'exemplarité. Que ce soit à votre niveau ou au niveau, j'irais, de votre réseau. Mais ça, ce que je vous explique là, c'est, s'il y a des gens ici qui ont des enfants, hein, ça peut être bien ça aussi. Hein. On dit que l'exemple n'est pas la meilleure façon d'enseigner, c'est la seule. Je crois que là, ici, on est vraiment dans cet état d'esprit-là. À partir du moment où vous voulez demain avoir un réseau qui vous suit partout où vous allez, eh bien, il faut avoir, pour moi, cette notion d'exemplarité. Donc, prenez conscience de ça. Ces cinq éléments sont des éléments majeurs pour votre création d'activité. Et cette notion de recrutement, de formation et d'animation, c'est pareil. Moi, je vois un réseau aujourd'hui, si je ressens un réseau qui se construit quand il y a une animation dedans. Quand il y a une ambiance, quand les gens, quand ils se voient, ils sont contents de se voir. Quand il y a vraiment, vous savez, on sent cette notion d'équipe qui fait la force d'un réseau, d'ailleurs. Si les gens sont en train de se tirer dessus à boulet rouge, quand ils voient, ils disent « je vais pas lui dire bonjour parce que... » Alors là, c'est même pas la peine. Hein, votre réseau, il va pas faire, comme dirait l'autre, ça durera moins longtemps que la vie d'un vieux chien. Donc faites attention à tout ça, parce que l'animation, c'est quelque chose d'important. Moi, c'est quelque chose que j'ai tout de suite intégré dans mon affaire, c'est cette notion d'animation. C'est pas toujours évident à gérer, parce que quand les gens, ils s'aiment bien, ils parlent beaucoup. Mais le plus important, c'est des... Moi, je préfère qu'ils parlent beaucoup, mais qu'ils se voient et que ça se passe bien. Qu'il y ait vraiment une vraie ambiance. Alors, donc ça a son importance. Donc c'est toujours ce que je dis, moi, à certains de mes leaders. Tu verras ton réseau, il va grandir en fonction de l'animation que tu vas mettre à l'intérieur et de l'ambiance que les gens ressentiront quand ils seront ensemble. C'est, j'irai aussi, un point majeur. Voilà, donc ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée déjà sur le démarrage de votre activité. Alors, n'oubliez pas que la vente directe par réseau va favoriser chez vous la notion d'apprentissage, parce que vous allez être un apprenti au départ, ça faut l'accepter, mais vous allez avoir plein d'apprentis à côté de vous après. Et ces apprentis-là, il faudra en faire des experts, et ça fera partie de votre mission. Vous allez aussi avoir un rôle sur votre croissance personnelle, c'est-à-dire que vous avez un travail à faire sur vous. Alors très souvent, vous avez des personnes qui disent « Ouais, mais bon, moi, mon réseau, il avance pas. Il faut peut-être regarder si toi, t'avances. Si toi, t'avances, ton réseau va avancer, il va évoluer. » Mais regarde bien si toi, tu es en train d'avancer. Est-ce que tu es en train d'évoluer par rapport à ce que tu étais et par rapport à ce que tu veux devenir? Après, vous allez avoir cette notion aussi d'amener plus de productivité. Parce que votre métier, vous savez très bien que le partenaire NL International vous explique que vous serez rémunéré sur une action, d'accord, de formation, d'animation et de motivation au sein d'un réseau, mais surtout sur l'expertise que vous aurez de créer un réseau qui va augmenter le chiffre d'affaires du partenaire et sa zone de chalandise. C'est votre mission. Au moins, c'est celle que vous avez choisie. Donc, à bien comprendre aujourd'hui, donc, lorsque vous démarrez ce type de projet, eh bien, pourquoi, justement, vous êtes en train de démarrer, est-ce que vous êtes prêt à accepter, je dirais, tout ça? Alors, vous allez me dire, bah, nous, on ne savait pas tout ça au départ, hein, on ne nous a pas tout dit, on ne nous dit pas tout, vous connaissez ça. Hein. Mais moi, je suis là pour tout vous dire, donc je vais tout vous dire, comme ça, vous n'aurez pas de surprise. C'est la fin de cette journée, vous ne savez pas pourquoi vous démarrez, je pense que il y aura un problème. Voilà, ça, c'est l'idée de départ. En plus, je vais vous apporter des choses importantes. C'est que il y a quelque chose qui me fait toujours rire. C'est que quand je m'approche de certaines personnes, je m'aperçois qu'ils ne démarrent pas ce projet pour les mêmes raisons qu'ils devraient le démarrer. Alors ça me fait, mais alors, des fois je suis surpris. Vous avez des personnes qui vous disent bah, écoute, je ne peux pas démarrer parce que j'ai pas le temps. Et je lui dis après, bah, est-ce que tu veux m'expliquer comment ton temps va s'améliorer dans les prochaines années si tu ne fais rien pour ça aujourd'hui? Ça, c'est le style d'excuse parapluie fait qu'on va sortir. Non, non, je peux pas démarrer parce que j'ai pas le temps. C'est pas vrai. C'est le temps, le trou à partir du moment où on a envie. Moi, quand j'ai démarré ce projet, j'avais déjà deux activités. J'étais cadre dans une société d'électroménager. J'étais co-gérant d'un cabinet de gestion de patrimoine dans le quartier de Créa-Nantes. Je travaillais à mi-temps, 12 heures par jour, 6 jours sur 7. Le dimanche, je faisais de temps en temps la compta quand j'avais tant de choses à faire. Moralité, quand j'ai démarré ce projet, j'étais submergé, j'avais un emploi du temps très chargé. Et pour autant, ce qui m'intéressait dans ce projet, c'est justement d'en gagner du temps. Et moi, je me suis aperçu quand même que les gens qui avaient peu de temps, des fois, ils étaient très performants. Parce qu'ils savaient l'utiliser, le temps qui restait, ils savaient l'utiliser. Prenez aussi conscience de ça, c'est que si vous démarrez parce que vous n'avez pas le temps, enfin, si vous ne voulez pas démarrer parce que vous n'avez pas le temps, c'est pas la bonne excuse. Alors maintenant, il y en a une autre. Je ne peux pas démarrer parce que j'ai des enfants. Moi, quand j'ai démarré la vente directe par réseau, je me souviens, j'avais ma petite dernière, elle avait 8 mois. J'en avais deux, une de 4, une de 6 ans. Alors vous voyez, 8, 4, 6, alors c'est sûr que là, je ne devais pas être très motivé pour démarrer. Hein. C'est pas possible, j'avais des enfants. Je pouvais pas. Mais il s'est avéré que les enfants, c'est soit vous les voyez comme des obstacles, soit vous les voyez comme des motivations. Ou soit vous voyez vos enfants comme un signe de responsabilité. Et puis, dites-moi, est-ce qu'il vaut mieux, bloquer 2 années de sa vie pour mettre en place une belle structure avec une belle croissance derrière et un peu de retour financier pour avoir des journées entières après à disposition, plutôt que de se dire, ben non, je reste dans un cadre et puis pendant 40 ans, je continue à bosser et pendant les premières années, je vais mettre mes enfants à la nourrice et puis ça se passera bien comme ça. Puis le soir, quand vous rentrez du boulot, vous êtes crevé, vous ne pouvez pas les entendre plus d'une demi-heure. Il y a une différence entre passer du temps avec ses enfants et du temps pour ses enfants. Moi, je vois des personnes, des fois, me dire, je peux pas aller au séminaire parce que je ne peux pas, là, j'ai les enfants à garder. C'est parapluie, permanence. D'accord ? Vous demanderez à toutes les personnes qui font des choses dans leur vie s'ils ont, par rapport à des raisons professionnelles, ils ont arrêté d'avoir des enfants. Je crois pas. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, si c'est pas les enfants, après, vous avez une autre excuse, c'est je peux pas démarrer, j'ai pas d'argent. Voilà, ça commence bien aussi, si vous voulez. Et ça, c'est une notion qui est très intéressante. Vous savez, moi, je me souviens de la. J'ai fait construire une maison en 2003, je crois. J'ai fait construire cette maison, je n'avais pas d'argent. Elle a quand même réussi à sortir de terre. Elle a quand même réussi à se construire. Je l'ai revendue 3 ans après. J'ai dû faire, à l'époque, ça l'immobilier, c'était plein pot. J'ai dû faire 100 000 euros de bascule en 3 ans. Je n'ai pas d'argent. Si vous pensez que l'argent, c'est un frein, le frein, il n'est pas dans le fait que vous avez rien sur votre compte en banque. Le frein, il est là. Il n'est nulle part ailleurs que là. Hein. Parce que l'argent, ça va, ça vient. Bon, vous verrez. Quand ça vient, c'est mieux. Hein. Mais c'est pas très grave. La seule chose qu'il faut vous dire, c'est que vous avez des personnes avec les phrases magiques qui vont vous expliquer, vous savez, l'argent fait pas le bonheur, mais il rend les gens de bonne humeur. Et je pense que ceux qui n'ont pas d'argent, ben, ils feraient bien de s'y mettre, parce que c'est quand même un bon moyen d'en gagner. Quoi. Demain, vous arrivez à avoir un client qui va vous prendre un programme, c'est 56 euros de commission. Essayez d'avoir 56 euros d'augmentation sur votre salaire mensuel, vous allez voir comment vous allez être reçu en ce moment. Ça va être vite fait, hein. Vous allez voir. Hein. Peut-être que vous aurez le droit à la camisole, si vous insistez. Prenez conscience que voilà, ça c'est aussi une notion, j'ai pas d'argent, donc je démarre un projet. Et quand on démarre un projet et qu'on n'a pas d'argent, eh bien, on trouve des solutions. Moi j'ai toujours 3 solutions à donner à quelqu'un qui me dit mais je peux pas démarrer, j'ai pas d'argent. Je dis, bah, pas de soucis, ce projet-là il t'intéresse? Ah ouais, vraiment. Eh bien écoute, tu vas vivre comme un frustré parce que tu vas pas le démarrer compte tenu que tu n'as pas d'argent. Ça, c'est la première solution. Bon, là, il n'est pas content. C'est un peu la tête. J'ai la deuxième solution, c'est tu vas voir ta banque. Ah, mais je ne suis pas bien là. C'est pas grave, tu vas la voir quand même. Ça va, leur métier, c'est de travailler avec de l'argent. Donc, tu vas vendre ton projet. Donc, ce qui est bien, c'est que tu vas déjà t'entraîner pour savoir quel est, ton degré de performance sur le fait que tu puisses vendre ce projet, notamment à ton banquier. Donc, tu vas vendre ton projet. Tu lui demandes 300 euros que tu vas rembourser dans les 6 prochains mois, à raison de 50 euros par mois. Tu mets un moratoire en place avec lui et tu le signes. Et là, il me fait, ouais, mais attends, je lui dis, écoute, si tu n'as pas dans ta tête l'idée que tu vas gagner 50 euros par mois avec une affaire comme ça, ne le démarre pas. Parce que là, je ne vois pas où on peut aller. Et puis, s'il ne peut pas aller voir le banquier, ben, il va voir tonton René, tata Janine, c'est rien, moi, un ami qu'il aime bien, et puis il dit, tu me prêtes 300 euros, et puis j'attaque. Mais on n'aime pas aller demander de l'argent aux gens. C'est compliqué, hein. Pas bien, hein. Ça se fait pas. C'est pas très moral. Ça peut nuire aux relations, après. Enfin, ça, moi, je vais vous dire une chose. Quand vous êtes décidé, faut y aller. Argent, pas argent. Et je dirais même en plus, que si vous faites ça comme ça, bien vous avez plus de chances de réussir parce que vous avez déjà un engagement vis-à-vis de quelqu'un, et si vous vous respectez et que vous respectez la personne qui vous a prêté les sous, ben au moins vous avancerez quoi. Donc ça c'est une deuxième idée. Puis la troisième idée, moi c'est souvent ce que je dis à la personne, ben écoute, c'est pas compliqué, tu veux démarrer ce projet, t'as pas l'argent, tu veux pas lui en demander, pas de souci. Par contre, ben, pour moi, tu représentes une belle liste de noms. Parce que tu connais plein de gens que je connais pas. Donc toi, on va mettre en place une sorte de deal. Tu vas me présenter des personnes potentiellement intéressées par les produits. Tu me présenteras des personnes potentiellement intéressées par ce projet. Quand on aura fait 6 clients, c'est moi qui prendrai les commandes, c'est moi qui passerai les PV. Je te mettrai un peu d'argent de côté, et une fois qu'on aura à peu près 240 €, tu démarreras et tu récupéreras ta clientèle. Et puis j'enclenche comme ça. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est que d'une manière ou d'une autre, moi ce que j'aime, c'est démarrer des personnes où j'ai pas tout ça à gérer. Parce que je m'aperçois que quand on démarre ce projet, très souvent on va chercher ceux qui en ont besoin. Alors moi je vais vous donner un conseil, allez chercher ceux qui n'en ont pas besoin. En vrai, vous allez gagner du temps. Donc on y reviendra tout à l'heure parce que c'est un aparté intéressant et faut voir où on peut aller avec tout ça. Comprenez aussi une chose, c'est que moi ce qui me fait marrer, c'est que vous avez remarqué que les gens ils sont prêts à croire des mauvaises nouvelles. C'est pour ça qu'ils mettent les informations. C'est-à-dire que quand ils mettent les informations, on leur annonce plein de mauvaises nouvelles, et quand ils écoutent, ils sont prêts à les croire. Mais tout de suite. Ah là là, vous savez, ils sont vraiment prêts à les croire. Puis quand on leur annonce des bonnes nouvelles, comme par exemple, tiens, il y a un projet que tu peux démarrer avec un faible investissement, avec un partage de temps, et tu vas pouvoir grâce à ça créer une activité d'une entreprise, là, ils veulent des faits. Tout à coup, on a besoin de savoir. C'est rigolo, ça, hein. Quand les mauvaises nouvelles, on les gobe, ça tout de suite. Et par contre, quand il y en a des bonnes, il faut vraiment des faits. Je voudrais faire un petit tour d'horizon avec vous sur des choses qui me semblent importantes. La première chose à comprendre, quand vous parlez de la vente directe par réseau, vous avez ce qu'on appelle les opinions. Les opinions, c'est « ah oui, je connais », « oui, mais ça ne marche pas », « il y en a qui ont essayé, ils ne sont pas arrivés ». Donc ça, c'est, pour moi, c'est ce que j'appelle des opinions. Après, vous regardez les faits, vous avez... aujourd'hui en France, l'équivalent, je pense, de plus d'un millier d'entreprises qui ont été créées par ce type de métier. Vous avez aujourd'hui en France à peu près 400 000 VDI. Vous avez en France aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui vivent avec des salariés grâce aux vendeurs à domicile indépendants. Parce qu'il faut bien savoir que les produits qu'ils vendent, il faut bien les produire à un moment. Donc il faut que ça se mette en route. Ça veut dire que ça nourrit des transporteurs, ça nourrit des activités externes. Ça nourrit les politiques, on paye des charges. Ouais, pour moi, ça, c'est des faits, quoi. À un moment, il faut arrêter. Ah, les personnes qui viennent m'expliquer, oui, mais ça ne marche pas, bah, écoute, je suis désolé, moi, j'ai créé mon activité en 2005, j'ai créé mon entreprise en 2006, ça va faire 7 ans que je vis de mon affaire. Alors, explique-moi si ça, c'est pas un fait. Parce que tes opinions, moi, je veux bien les écouter. Mais qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à ça? Donc, il y a des faits. Et puis il y a les opinions. Alors après, ça c'est par rapport à gérer vos métiers. Puis après, vous avez, c'est le marché. Quand on vous dit le marché, ah bah oui, je connais le marché de l'équilibre alimentaire, mais c'est bouché là. Il y a plein de monde là-dessus, c'est pas un marché de toute façon c'est trop concurrentiel. Bon, bah, je dis ok, pas de souci. Après, si vous regardez ça, bah, vous apercevez qu'on a une croissance aujourd'hui sur ce type de marché qui est une croissance à deux chiffres, quand même. Ce qui est plutôt compliqué. Moi j'ai un ami qui est chef d'entreprise. Il y a toujours eu des croissances à deux chiffres, jusqu'à l'année dernière. Et bizarrement, cette année, comme il me dit, Pascal, c'est la première année que ça m'arrive, je suis à moins 20. Moins 20%. Et il me dit, la problématique que j'ai, c'est pas forcément que j'ai pas de clients, c'est pas forcément que le commerce n'est pas bon, c'est que les gens ne payent pas. Ça veut dire que ma trésorerie, elle est plus dehors que dedans. La chance qu'on a, c'est que nous, on n'a pas de compte client à gérer. Non, on fait pas crédit, la maison ne fait pas crédit. C'est un intérêt. Ok ? Donc, pour notre commerce, c'est important. Vous avez une forte demande en France, vous avez une forte demande mondiale dans ce marché. Vous avez aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, vous savez que la France, elle est au 18e rang de l'obésité mondiale. Bon, il y a un peu de boulot à faire. Et puis que le premier pays, je crois que c'est Haïti. Premier pays au premier rang de l'obésité, c'est Haïti. Et après, juste derrière, vous avez les États-Unis. Vous avez l'Australie qui est en quatrième position. Vous avez de la demande partout. Bon nombre de personnes aujourd'hui sont en train de se demander comment ils vont pouvoir endiguer cette problématique. Et puis, l'autre problématique, c'est la malbouffe. Alors vous regardez les émissions, je peux vous donner quelques titres. Hein. Si vous avez l'occasion, vous regarderez la vérité si je mange. Si vous connaissez ce film-là, vous tapez ça sur Internet. Ça dure 52, 53 minutes, je crois. C'est très intéressant. La vérité si je mange. Pour ceux qui achètent du steak haché en hypermarché, ça va les calmer. Et pour ceux qui mangent des raviolis aussi. D'accord ? Vous allez voir des choses assez étonnantes. Vous avez aussi la surconsommation. Un titre qui s'appelle la surconsommation. Alors là, vous allez voir des choses mais énormes. Mais voilà, donc faut comprendre que l'alimentation, aujourd'hui, c'est ça. Vous avez un autre film, le scandale alimentaire. En réalité, on vous explique que vous avez des hypermarchés aujourd'hui qui arrivent à jeter par an 240 000 euros de nourriture. Vous avez des hypermarchés, on vous explique aujourd'hui que, par exemple, ce qui est assez rigolo, quand vous prenez un yaourt, on vous explique dessus, vous avez une date limite de consommation, on est d'accord. Eh bien, le même yaourt que vous allez acheter en hyper, que vous allez jeter parce que la date limite de consommation sera dépassée, ce même yaourt-là, quand il le vend dans les dom-tom, il lui donne 3 semaines de plus de DLC. Il ne change rien dans le yaourt. Hein. Et ils mettent 3 semaines de DLC supplémentaires. Tout simplement parce qu'on veut que ça tourne, quoi. Et dans votre réfrigérateur, aujourd'hui, vous travaillez, vous avez un gâchis énorme sur l'alimentation, aujourd'hui, qui est orchestré par l'agroalimentaire. Donc il faut aussi faire attention à tout ça. Hein. Alors, prenez le temps de vous informer, de vous renseigner sur l'alimentation, vous allez voir, il y a des choses, c'est la folie quand même, ce qui se passe en ce moment. Donc prenez conscience après qu'une fois que vous êtes là, vous allez arriver avec votre produit énergie diète, puis avec vos compléments alimentaires, et quand vous allez arriver avec votre produit énergie diète, vous avez des personnes qui vont dire « Oh, je connais, c'est de la poudre, c'est pas bon, oh, c'est comme... » Enfin bref, vous savez, toutes les grandes idées reçues. Et puis... moi, c'est ce que je dis souvent. Alors, en plus, pourquoi pas sécher aussi, on va mettre ça dans le lot. Et là, vous avez des personnes, vous savez, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est ils s'achètent, ils sont bons. Les clients qui les ont commandés en recommandent. Ils en parlent. Ils sont aux normes européennes, d'accord. Ils sont validés par un laboratoire et un comité scientifique. Ils s'exportent dans plus d'une dizaine de pays. Vous avez un fabricant qui est en France, qui a quand même 30 années d'expérience dans le domaine. Mais attendez... Moi, quand j'opère d'un aliment énergie diète, j'ai un aliment qui est sécurisé à 99,99%. J'ai pas de bactéries, j'ai pas de pesticides, j'ai pas d'humidité dedans. Je provoque 0,07% de déchets à chaque repas. J'ai un repas équilibré qui me revient à 2,70€, 2,90€ maxi. Attendez, vous connaissez ça sur le marché, vous ? Voilà. Donc là, ça pour moi, c'est des faits. Alors les opinions, après, c'est de la toute, machin. Pas grave, hein. Vous arrivez dans un supermarché aujourd'hui, 50% de la base alimentaire de l'hypermarché, c'était de la poudre avant. Hein. Faut quand même en prendre conscience. Hein. Quand vous rentrez dans les rayons biscuits, je suis désolé, les biscuits, c'était de la poudre. Hein. Moi, vous savez, j'ai un ami qui est à Montaigu, qui a sa femme qui est directrice, je dirais, d'une laiterie, ce qu'on appelle la laiterie Montaigu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais pour vous donner un ordre d'idée, donc il fonctionne aujourd'hui sur une poudre qui est achetée par les Chinois, ils ont un marché en Chine qui est extraordinaire, c'est la poudre de lait infantile. Je veux dire, tous nos enfants, ils ont au moins pris du lait en poudre, quoi. Je veux dire, et puis ça les a nourris pendant des mois et des mois. Hein. Et c'est ce qui leur a permis de rester en forme pour certains. Et bon, on fait un gros travail là-dessus. Et puis vous savez quoi? Comme ils sont aperçus que le lait c'était bien, là ils sont en train d'investir 30 millions d'euros dans une unité de production pour mettre en place un système de poudre alimentaire. La bonne blague. 30 millions d'euros. C'est pas mal, non? Vous connaissez la Sodebo?
Oui.
Vous connaissez? Ouais, la Sodebo, c'est à côté de chez moi. Le patron, c'est un ancien traiteur. D'accord? Quand il a commencé à lancer, je dirais, cette activité, il a fait ça il y a 37 ans. Il était traiteur dans le centre-ville de Montpellier. Aujourd'hui, il a une entreprise avec 2000 salariés. Il sponsorise pas mal de choses. Et ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à ça, vous prenez la Sodebo, mais quand vous arrivez dans l'unité de production de la Sodebo, il y a de la poudre partout. Les pizzas, elles sont faites à base de quoi? Voilà, donc faut arrêter, quoi. Moi, je veux dire, les gens qui disent de la poudre. Et moi, après, je leur dis, bah, je suis désolé, notre aliment, il se cuisine. Sauf qu'on vous présente la matière première. À vous de vous débrouiller pour en faire quelque chose. Voilà, on n'a rien fait de pire que ce que font nos petits copains. Sauf que nous, quand ils consomment notre produit, ils ont vitamines, sels minéraux, macronutriments, micronutriments, de la totale. Ils ont en plus la haute digestibilité avec la base enzymatique qu'on a rajoutée. Ils ont du guarana, de l'acérola, de la gelée royale. Ils veulent qu'on le vende combien après le produit là? Ouais, moi je trouve que 2,70€ c'est donné. Hein. Je suis désolé, c'est donné. Donc il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un produit qui est au top niveau de ce qui se fait. Pour moi, il n'est pas vendu assez cher, mais on le vend au prix du marché. Pourquoi il s'achète? Ben parce que c'est bon, ça fonctionne. Et puis, moi je suis désolé, enfin je sais pas, ici, j'imagine que certains d'entre vous ont des clients. Moi j'ai rarement vu, enfin sur la globalité de mes clients, j'en ai pas vu qu'on fait des bons en arrière pour sortir un chèque de 250€ pour aller chercher un programme entier. Quoi. Ben, moi je suis désolé, moi j'ai jamais fait en 8 ans de conditions de règlement à ma clientèle. Hein. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que si vous n'êtes pas à l'aise dans vos baskets quand vous arrivez avec le tarif en tête, là, c'est sûr que ça va faire cher pour le client. C'est-à-dire que si vous, quand vous arrivez, vous êtes déjà en train de marcher reculant à l'idée de lui annoncer le prix, ça ne va pas être bon. Alors en réalité, ça coûte... attendez, je vais vous le dire. Vous savez, un peu comme Muriel Robin qui se retourne. Et après, et là, vous allez annoncer. Bon, bah écoute, c'est... C'est marrant, ça n'arrive pas à sortir. Et vous allez voir que si vous faites ça comme ça, ça va être compliqué. Parce que la personne que vous aurez en face de vous va sentir votre gêne à l'idée de lui donner le prix. Donc, systématiquement, vous allez lui amener une zone de doute. Donc, voilà, vous, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci, 250€, tout va bien, quoi. D'accord. Puis en plus, si la personne a vraiment une problématique pour mettre 250€ sur la table, vous regardez à peu près son profil, puis vous la démarrez, comme ça, ça ira plus vite. J'ai fait 24 ans sur le terrain. Avant, de tas de choses, j'ai vendu des photocopieurs, j'ai vendu des voitures, j'ai vendu de la formation, j'ai vendu de l'électroménager, du petit, du gros, enfin bref. Et vous avez des personnes, quand ils voient, ils me disent « Ouais, pour toi c'est facile ». Mais je me marre quand on me dit ça, moi. Parce que moi, quand je suis arrivé dans la vente, j'avais 19 ans, je sortais de l'armée. L'armée, c'est une belle école de vente, hein. Je peux vous dire, là vous êtes au top. Et là, quand j'arrive, moi je rentre dans une école de vente qui s'appelle Renault, l'école de vente Renault. Et je me trouve dans cette école de vente et je n'y connais rien. C'est-à-dire que moi, quand je suis né, vous avez des gens qui disent « Ouais, mais il y en a chez qui c'est inné ?» C'est des bêtises, tout ça. Ça n'existe pas, ça. C'est comme dit Michel Lavazor, vous imaginez, vous êtes à peine sorti du ventre de votre mère, que vous commencez à tendre des cartes de visite au gynécologue, en disant « Tiens, je vais vendre la chaise, qu'est-ce que tu veux ?» C'est pas inné, ça n'existe pas, ça. D'accord. Donc, il n'y a rien qui fonctionne comme ça. Tout s'apprend. Et moi, je veux dire que je peux vous donner juste deux anecdotes. Comment j'ai appris la vente? Moi, je me souviens de la première fois, j'étais avec mon sponsor de l'époque, hein, qui était un collègue de boulot, Patrice Ragas, et on s'en va dans des immeubles, à Pouzeau, je me souviendrai toujours de ça, et je m'en allais faire les premières portes, le tap-tap. À l'époque, il fallait que je fasse quand même 80 visites clients qualifiées par jour. Par jour. C'était entre 120 et 140 portes. Une belle école, hein. Parce que j'en ai pris certaines sur le nez, je peux vous dire, puis il y en a qui étaient lourdes. Et quand on fait ça, moi je me souviendrai toujours de la première porte que j'ai faite. Il y avait Patrice, il était dans l'escalier, puis il me dit « Vas-y, frappe !» Je dis « Quoi, moi ?»« Elle frappe !»« Ah ouais, mais qu'est-ce que... Je présente comment le truc ?» Ah, il me dit « Tu te présentes, c'est Pascal Brault, Herbantez Automobile, et puis voilà, et puis tu vas voir. » Je dis « Ok, ouais. » Alors quand je frappe, je dis « Pourvu qu'elle soit pas là !» Normal. J'étais tellement en train... Et au moment où je frappe, je regarde Patrice, je dis oh, ça n'ouvre pas. Puis là, je me retourne, pof, la porte s'ouvre. Oh là là. Je dis ah, bonjour madame, Pascal Brault, alors, Herbantèse, un truc incompréhensible, enfin bon, bref. Et je dis voilà, donc je vais vous voir, savoir ce que vous avez comme véhicule. Et puis la dame, elle me dit rentrez donc. Je me retourne, je dis il était parti. Donc je me retrouve à rentrer, et là je... voilà. Et puis c'était mes premiers pas, c'est un de mes premiers pas. Je me souviens d'une autre prospection que je fais, je suis habillé, j'avais un costume sombre ce jour-là, je frappe à une porte, là c'était dans une ville de proximité, donc de Montaigu 13CT, j'arrive, et là je frappe à une porte, la porte s'ouvre, un monsieur qui m'ouvre, et je dis bonjour, je voudrais voir monsieur Durand, d'y entrer. Alors j'entre. Je dis, mais je peux te voir où? Elle est là. Alors, j'ouvre la porte, je vois quatre candélabres, un homme allongé juste au milieu, c'était monsieur Durand. Et là, je lui dis, bon, déjà lui, il ne va pas m'acheter de voiture aujourd'hui. Et là, je prends le truc, je le bénis, oui, je fais mon signe de croix, je regarde les gens, je sors, et j'ai à peine franchi la porte que je me mets à exploser de rire. Et là, il y avait des gens qui arrivaient de la famille. Et ils m'ont vu sortir, et j'étais tout seul à mourir de rire sous le trottoir. Quoi. Et vous imaginez, ce que je veux dire, c'est que votre... C'est comme ça qu'on apprend. Moi, j'ai appris le métier comme ça. Je veux dire, c'est pas venu tout seul. Moi, il y a des fois, j'arrivais, si vous allez demain prospecter en Vendée, quand je vendais des voitures, il fallait que je rentre dans des caves où il y avait six gars qui parlaient de patois, je comprenais rien du tout. Mais rien. Qui veut de chauve? Quand vous entendez ça, ça vous met en forme. Moi, je ne comprenais rien du tout. Alors après, il a fallu apprendre le patois, après, il a fallu apprendre à boire du vin qui n'a pas de goût. Enfin, innommable. Tout ça pour vous dire que, voilà, c'est comme ça qu'on apprend le métier. Je suis désolé. Aujourd'hui, vous êtes pour les personnes qui n'ont jamais fait ça, ne vous inquiétez pas, ça va s'apprendre avec le temps. Si vous avez de bons objectifs, vous allez pouvoir perdurer au niveau de cette activité. Donc comprenez bien ça, parce que ça a vraiment une importance dans ce qui va vous arriver demain. Moi, je me souviens d'une fois où j'ai mon patron, quand je vendais de la voiture, qui me dit « Pascal, va donc voir Monsieur Dupart avec une... J'avais une 505 SRD turbo, enfin le haut de gamme Cédric Cuir. La voiture valait 150 000 francs. Moi, à l'époque, je devais gagner péniblement 4 500 francs. Et là, on me dit, tiens, tu montes dans cette voiture et tu vas aller la vendre à un monsieur. Alors, j'arrive et puis je présente la voiture. Et là, vous imaginez le prix pour moi, ce que c'était. C'était énorme, quoi. C'est même passé 3 ans ou 4 ans de salaire. Comment ils peuvent faire pour acheter un truc comme ça, mais ce tarif-là, c'est pas possible. Et moi, quand je suis arrivé là-bas, je lui ai montré la voiture. Et lui, il me donnait des signaux d'achat. Il n'arrêtait pas. Il dit, ouais, très bien, ouais, super. Ah ouais, bon moteur, fait pas de bruit. Oh, confort, oh, machin, oh, truc. J'étais là, Et là, plus il discutait, je lui dis, vous avez pas vu ça, il y a ça aussi, puis après, il y a ça. Puis en réalité, j'arrêtais pas de meubler parce que j'arrivais pas à mettre la main sur le bon de commande, quoi. Puis à un moment, je me souviens, Michel, parce qu'il s'appelait Michel, il m'en vient, il me dit, Pascal, il me dit, est-ce que vous allez sortir votre bon de commande, oui ou non? Il dit, parce que je peux le remplir aussi, si vous voulez. Ah, je dis, non, je le prends, là, je le prends. Je sors le bon de commande, mais je tremblais, hein. J'ai tout écrit quand j'ai vu la somme, 150 000 francs. Vous voyez ce que je veux dire? La problématique que vous avez sur le prix d'un produit, c'est pareil. Voilà, c'est exactement comme ça que ça se passe, c'est parce que vous êtes comme ça. Parce que vous regardez votre paye, vous dites, attends, ça représente quand même un quart de ma paye. Comment on peut imaginer qu'il y ait des gens qui puissent mettre 250 euros dans un produit de ce type? Alors, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, il faut le mettre de côté, d'accord? Parce que vous inquiétez pas, de l'argent, il y en a dans les chaussettes, il y en a sous les matelas, il y en a dans pas mal d'endroits. Et ils ne demandent qu'à sortir pour certains. Sauf que si vous pensez que certains ne l'ont pas, des fois vous pouvez en plus vous tromper. Vous pouvez vous tromper beaucoup même. Donc faire attention à tout ça. Donc les produits, vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, vous avez des produits qui sont à votre disposition. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les produits que vous avez aujourd'hui sont des produits qui ne se vendent pas, mais qui s'achètent en priorité. Donc on ne vous demande même pas d'être vendeur, on vous demande d'être un client satisfait, parce que le meilleur moyen de les vendre, c'est de les consommer soi-même. Et puis à partir du moment où vous êtes un client satisfait et que vous savez en parler, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer et les clients vont pouvoir, sans aucun problème, aller vers l'image que vous allez leur amener. D'accord, par rapport à ce que le produit peut apporter. Parce que les gens, ils ne vous achètent pas le produit, ils vous achètent un résultat. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Alors je vous invite pour les personnes nouvelles déjà à vous diriger sur le site NN International et à aller travailler avec Daniel Piestrac sur ces différents éléments. Vous verrez qu'il en parle beaucoup mieux que moi. Et ça pourra vous aider notamment sur la conclusion. Après, donc, au niveau du partenariat, c'est pareil, on a des opinions et des faits. Vous avez des personnes qui vous disent « c'est quoi ce partenaire ?» Alors, Enel International, ça veut dire quoi, Enel? Ça me fait marrer quand on dit ça. Et Texaco, ça veut dire quoi? Je ne sais pas ce que ça veut dire, Texaco. Ils font des milliards, ils font des milliards de dollars sur le marché. Texaco, ça veut dire quoi? Après, le gars, il vient voir, on va voir ce que ça veut dire, Enel. Mais ça va changer quoi, ta vie? Ouais, c'est rigolo, mais bon, c'est pas grave. Je lui dis quand même NL, ça veut dire nos limites. Vas-y, éclate-toi, fais ton truc avec ça. Et puis, si vous voulez, dans l'absolu, après, quand vous vous retrouvez avec ça, eh bien, voilà, c'est une société qui est créée depuis 2003. NL International, ça représente 100 millions d'euros de chiffres. C'est des structures qui sont aujourd'hui bien établies et en France et en Russie, hein, et au Maroc, et Angleterre, Allemagne, Canada, etc., etc. Vous avez un avantage avec une société comme NL International, c'est que elle est jeune et peu connue. Et vous avez un inconvénient, c'est qu'elle est jeune et plus connue. Donc avec ça, c'est pareil, vous faites votre tri. Et ce qui est le plus important, c'est de prendre conscience que c'est un vrai projet clé en main que vous offre Sylvain Bonnet. Faut en faire quelque chose une fois que vous l'avez découvert. Après, c'est de dire bah, comment est-ce qu'on peut fonctionner avec tout ça et comment ça va avancer. Alors, lorsque vous êtes en train de développer ce type de projet, ce qu'il faut, c'est la première des choses, parce que là, on va commencer à travailler sur deux, trois éléments qui me semblent importants. Première des choses, quand vous démarrez, c'est savoir pourquoi. D'accord ? Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que pas de pourquoi, pas de résultat. Hein, c'est comme pas de bras, pas de chocolat. pas de pourquoi, pas de résultat. N'essayez pas de me dire que vous allez arriver à faire quelque chose si vous ne savez pas où vous allez. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas comment quelqu'un peut monter dans sa voiture, mettre la clé de contact et dire « je ne sais pas où je vais, mais j'y vais quand même ». Ça va être compliqué, hein. Ou alors, je brûle à se promener, il va cramer de l'essence, il va revenir chez lui, il va dire « ça va donner quoi ?» Rien. Tu t'es désennuyé, pour du tout. J'ai renoncé à rien, mais je suis content, j'ai bougé. Alors ça, c'est la personne qui démarre dans ce projet. Vous voyez, si elle démarre et qu'elle ne sait pas où elle va, ça va être compliqué. Alors, l'autre point important, c'est que si vous voulez savoir pourquoi vous démarrez, bah, essayez de comprendre ce qui vous est arrivé le jour où vous avez découvert ce projet. Déjà, la première des choses, comprenez une chose. Quand on découvre ce projet, très souvent, on le démarre sur une émotion positive, a priori. D'accord ? Donc on démarre ce projet sur une émotion, tout le temps. Et il faut savoir que le monde des émotions est très... si un jour vous avez un petit livre à lire qui est très intéressant, ça s'appelle « Émotions, mode d'emploi », qui vous apprendra qu'en réalité, il y a quatre émotions majeures, et tout le reste sont des émotions sociales qui ont été construites par l'homme. Enfin, je vous laisse lire le livre, vous verrez, c'est très intéressant. Juste de comprendre une chose, c'est que quand vous démarrez sur une émotion, essayez de comprendre cette émotion que vous avez ressentie lorsqu'on vous a présenté ce projet. D'accord ? À quel niveau elle a percuté pour vous ? C'est-à-dire que, est-ce que c'est une émotion que vous avez ressentie par rapport au fait que vous avez réalisé quelque chose que vous n'avez pas réussi à réaliser depuis le début de votre vie ? Est-ce que vous avez pensé à la liberté ? Est-ce que vous avez pensé à l'argent ? Est-ce que vous avez pensé à la sécurité ? Est-ce que vous avez pensé à l'évolution personnelle ? Est-ce que vous avez pensé à la retraite ? Est-ce que vous avez pensé à la reconnaissance sociale ? Prenez conscience de ça. C'est-à-dire, moi, je démarre ce projet et j'ai besoin de savoir pourquoi. Donc aujourd'hui, vous avez juste une chose à récupérer de ce séminaire, tout du moins je vous le souhaite, c'est le fait que, d'une manière ou d'une autre, la seule personne responsable de votre succès ou de votre insuccès, ce sera vous, ce sera personne d'autre que vous. Et je crois que, pensez à cette notion-là, entraînez-vous vraiment sur le fait de penser que vous êtes dans la bonne affaire. Soyez fiers de ce que vous faites. Soyez heureux d'être dans la vente directe par réseau. Montrez aux autres que ce métier, c'est un métier noble, juste, équitable, qui va permettre à bon nombre de personnes demain de pouvoir avancer dans une société, socio-économique, qui va de l'avant. On n'est pas figé chez nous. Regardez, on accepte tout le monde. On n'est pas élitiste. Enfin, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez envie de faire. Je ne m'occupe pas du passé, je m'occupe de votre avenir. C'est quand vous voulez maintenant. Maintenant, tout peut changer dès aujourd'hui. Alors vous l'utilisez à bon escient, ou vous restez comme vous êtes, c'est vous qui voyez. Mais d'un autre côté, d'une manière ou d'une autre, la décision, c'est vous qui la prendrez. Quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez, je vous souhaite plein de succès dans tout ce que vous entreprendrez. Bravo d'avoir assisté à cette formation. Merci.